RCF.
La Bible a plusieurs voix. Avec aujourd'hui les voix de
Michel Quintric,
Pierre Chamarbois,
Claude Chapelain,
Malou Lebars. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de cette lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec le chapitre 2 commence un épisode qui est assez connu de beaucoup d'entre vous, sans doute ce qu'on appelle le récit de la Pentecôte. Alors je vous propose tout de suite d'entendre ce passage. Donc chapitre 2 des Actes des Apôtres, versets 1 à 13.
Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Et tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous déconcertés, et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » D'autres s'esclaffaient, « Ils sont pleins de vin doux. »
Voilà, alors je ne sais pas si nous serons pleins de vin doux pour évoquer ce qu'il en est de la Pentecôte, mais je propose de revenir donc sur ce récit et de l'examiner de près. Je relis le verset 1. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. » Alors peut-être que là, il nous faut déjà nous attarder, parce que c'est dit d'une façon un peu particulière à Michel, quand le jour de la Pentecôte arriva, mais c'est pas exprimé comme ça normalement.
Non. Dans le grec, c'est pas tout à fait ça qui est dit. Si je fais le mot à mot du grec, c'est « lors du fait de s'accomplir le jour de la Pentecôte, étaient tous ensemble dans le même lieu. »
Oui, donc ça veut dire que voilà, ce qui est en jeu, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir. Hein, donc, oui. Qu'est-ce qu'on peut entendre par là ?
Oui, c'est sûr. Ben, c'est-à-dire que le mot même d'accomplissement a une signification très, très forte. Jésus est venu accomplir la loi des prophètes, et la Pentecôte, c'est quelque part l'accomplissement, le point vers lequel converge, j'allais dire, le point de départ et le point d'arrivée de quelque chose de tout à fait nouveau.
Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que, puisqu'on a lu un peu tout ce récit, il sera question de plénitude, de fait de, d'être rempli quand même à plusieurs moments de ce récit aussi.
Oui, c'est un petit peu ce qu'on a dans l'accomplissement. Mais tel que c'est dit, on ne peut pas penser la Pentecôte comme un jour du calendrier où la veille, ce n'était pas du tout la Pentecôte, puis après c'est fini. C'est la Pentecôte, ça a commencé depuis très longtemps, et on va voir dans le texte qu'il y a des réminiscences d'autres textes qui sont du Premier Testament, mais que on arrive ce jour-là à l'accomplissement de tout ce qui était déjà en germe avant.
Voilà, et donc ce jour-là de la cinquantaine, Michel, c'était quoi ?
C'est d'autant plus intéressant qu'effectivement ce jour de la cinquantaine était pour les Juifs de l'époque le souvenir, ils commémoraient l'alliance au Sinaï avec le don de la loi. Et donc ici, on est dans l'accomplissement de cette Torah. Ah,
exactement, et c'est ça. C'est vraiment une fête juive qui était du temps de Jésus et qui l'est encore aujourd'hui. C'est le don de la loi au Sinaï.
Et donc ici, on va trouver dans cette complétude ou cette, enfin je sais pas, plénitude, le don de l'esprit. Hein, et donc ça va se manifester avec des figures différentes. Alors
petite remarque, c'est qu'ils sont au même endroit.
Oui, puis ils sont tous ensemble.
Ensemble.
Alors on peut peut-être se dire, mais c'est qui ce tous ? On peut faire une hypothèse. C'était peut-être
les 120 témoins dont on a parlé auparavant.
Oui. Ouais, et puis tout à l'heure, parce que Pierre parlait du tous ensemble, on peut aussi penser à la tour de Babel où ils étaient tous ensemble et ils voulaient tous parler une langue unique. Et peut-être qu'on peut établir un certain rapport, non seulement avec la loi, avec le don de la loi, mais faire un certain rapport entre ce récit de la Pentecôte et le récit de la tour de Babel où il y aura aussi une question de langue et de langage.
Oui, tout à fait, et c'est vraiment assez extraordinaire de voir qu'il y a plusieurs textes du Premier Testament qui viennent là trouver leur accomplissement. Donc, tous ensemble, en un même lieu, et on va apprendre seulement au verset suivant que c'était une maison.
Oui, alors donc on a quelque chose qui se passe dans un lieu qui semble bien défini, une maison, et puis effectivement après il y aura un deuxième espace où il y aura donc tous les juifs de toute nation, les juifs et prosélytes de toute nation. Voilà. Je relis le verset 2. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Alors, ce qui est énuméré d'abord, dans l'énumération, il y a du bruit comme un coup de vent, il y a des langues comme de feu, mais c'est d'abord le bruit.
Oui, pour refaire le lien avec Babel, il y a le tous ensemble, il y a du bruit. Le bruit, c'est indistinct. Quand il y a du bruit, on entend du bruit, mais on comprend rien. Hein. Et après ça, il va y avoir une distinction qui va se faire.
Ça vient du ciel, dit-on ici. Hein,
oui, donc ça vient du ciel, mais je crois aussi que c'est pas... Enfin, vous avez utilisé le mot bruit, mais je pense que le mot fracas serait beaucoup plus juste par rapport au mot grec qui est utilisé. C'est pas que du bruit.
Ce qui renforce.
Oui, c'est très très fort en fait.
Alors le fracas, c'est qui est intéressant, c'est que le fracas fracasse. Le fracas fait peur. Et justement, au Sinaï, lors du don de la loi, le peuple était là, en bas, au pied du Sinaï, et assistait à un spectacle au-dessus où il y avait du fracas, c'est quasiment ce mot-là, hein, et il y avait du feu. C'était comme des orages, enfin des éclairs, et le peuple était terrorisé devant ce spectacle-là. C'est pour ça qu'ils ont sous-traité à Moïse en disant tu causes mieux que nous peut-être. Enfin, de toute façon, nous on est incapable de dire un mot, hein, on est bouche close. Et voilà, d'une certaine manière, ça commence comme au Sinaï.
Et alors, ils ont perdu la voix.
Et donc là, si on met bien les choses en place, donc ça vient du ciel, un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Et peut-être on retient davantage le coup de vent, le souffle d'ailleurs, que comme, parce que c'est exprimé par une comparaison. Et donc après, on nous dit qu'il y a la maison qui est toute remplie, hein, donc encore ce remplissage, là, cette plénitude. Alors leur apparurent comme des langues de feu Donc des langues de feu. Alors le mot langue pourrait peut-être aussi préciser ce qu'on entend par là. Des langues de feu, des langues comme de feu d'ailleurs. Et après il sera question de parler, de parler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on va prendre le temps peut-être de regarder un peu tout ce que ça met en œuvre ici.
Alors, on constate que la maison donc, dans laquelle ils se tenaient, il faudrait peut-être traduire d'ailleurs dans laquelle ils étaient assis.
Oui.
Le fait d'être assis, ce n'est pas n'importe quelle position. C'est la position et de celui qui enseigne ou de celui qui attend aussi.
Qui est enseigné.
Et, pardon ?
Peut-être qui attend quelque chose d'être
voilà,
enseigné. En
qui attend
sorte.
Peut-être d'être enseigné.
Oui, et donc le fracas qui remplit toute la maison, ça signale que contrairement au Sinaï où le peuple était à l'extérieur, eux sont pris dedans. Carrément, ils sont là sur la montagne, qui est représentée ici par une maison, et ils sont complètement dedans. Et ils voient le feu tomber sur eux.
Mais ça ne leur fait pas peur.
Ah, pas du tout.
Aucune réaction de panique ni de stupéfaction ici.
Voilà. Et ils voient apparaître, il y a quelque chose là, qui est ces langues qui se partagent. Alors, voilà. les langues, c'est, je pense qu'en grec, c'est un petit peu comme en français. La langue, c'est l'organe phonatoire, du goût, etc. Et en même temps, c'est ce qui nous permet de dire des mots et de communiquer entre nous.
Oui, alors vous avez souligné là tout à l'heure, c'est peut-être important. Donc, on nous dit que les langues se partageaient. Donc ça, c'est peut-être important aussi. On pourrait dire, mais s'il y a un partage, c'est qu'au départ, il y a comme une unité quelconque. Mais,
oui, si on fait référence un peu aussi là, à Babel, il y avait une langue qui était une langue unique, et puis on est arrivé après à des langues diversifiées. Mais on verra ça plus tard, mais dans ces langues diversifiées, ils ne s'entendaient pas. Tandis qu'ici, les langues vont se diversifier, chacun va entendre sa langue, mais ils vont l'entendre, ils vont savoir ce qui se dit.
Ici, d'abord, dans ce petit épisode, ça sera pour qu'ils puissent parler.
Voilà.
Donc, on ne nous dit pas qu'ils entendent quelque
non,
chose.
Non, ils vont se faire entendre, je veux
voilà,
dire.
Voilà, d'accord.
Une chose intéressante, c'est que effectivement apparaissent comme des langues de feu, et le texte grec nous dit après, donc des langues de feu qui se partageaient, et elle se posa chacune sur chacun.
Donc il y a une langue qui se pose sur chacun, en quelque
oui,
sorte.
Oui, non, mais et quelque part, on a aussi comme si c'était une, tous ces ensembles de langues là ne faisaient que une.
Une langue et voilà, qui se pose sur chacun.
Qui se pose sur chacun. Alors, une manière de dire aussi, peut-être qu'ils ont la plénitude de la réception pour chacun. Et chacun dans son individualité en même temps.
Oui, c'est ça le plus important, c'est qu'on avait un tous ensemble, et puis on découvre que tous ensemble, c'est fait de chacun, et chacun reçoit quelque chose sur lui. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment ça se pose sur les personnes, on ne sait pas très bien qu'est-ce que... comment le représenter, mais il y a là quelque chose qui vient, on pourrait dire, délicatement se poser, alors que le feu du Sinaï, c'était un feu mortel. Si on était frappé par le feu, on était mort. Là, ça vient délicatement se poser sur chacun.
Et donc, on nous dit au verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, on a vu cette plénitude-là de remplissage en quelque sorte de l'Esprit Saint. Mais comment vous entendez l'expression « ils se mirent à parler d'autres langues » ?
Moi, je trouve assez intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui est unique. La langue, comme s'il y avait une langue d'origine, et que ça se réalise après d'une manière diversifiée. Voilà. Il y a comme quelque chose qui est donné au départ, mais qui ne peut se vivre que de manière multiple, ou se dire de manière multiple.
Alors, il y en a deux qui veulent parler en même temps,
oui.
Pierre et puis Michel, après.
Là, je pense qu'il faut être très clair. C'est une option qu'on prend en lisant de très près le texte. Il ne s'agit pas de donner la capacité à chacun de parler des langues étrangères, des langues qui ne seraient pas leur langue à eux.
C'est pas d'une prouesse linguistique qui s'agit.
Absolument pas. C'est pas un apprentissage ultra rapide des langues étrangères. Ils ne vont pas parler tout d'un coup le latin pour ceux qui le connaissaient pas, l'arabe pour ceux qui le connaissaient pas. Ils vont parler d'une autre manière. Ils vont dans leur façon de parler introduire quelque chose qui ne sont pas d'eux et qui est bien marqué par cette origine de langue de feu, mais ils vont avoir une parole qui pourra se faire entendre là où à Babel, effectivement, c'était pas possible.
C'est ça.
Mais parce que à Babel, la différenciation des langues qui était nécessaire n'était pas suffisante parce que ces langues n'étaient pas ouvertes encore sur quelque chose qui peut s'entendre dans toutes les cultures.
Alors, est-ce que c'est quand vous dites ça, est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit de parler une langue autre? Mais pas dans le sens linguistique, on l'a bien vu. Est-ce que c'est un parler humain à partir d'autre chose ou de quelqu'un d'autre, à partir de cet esprit, quoi. Donc on va dire
c'est
ça
toutes
qui
lettres,
est
en toutes lettres. Ils vont parler à partir de l'esprit.
À partir de l'esprit.
Comme l'esprit leur donnait un don. Ils ont le don de l'esprit, là. C'est pas le don des langues, c'est le don de l'esprit qui leur permet de trouver les mots, le ton, la façon de faire, qui fait que ils vont pouvoir être entendus par des gens extrêmement variés.
Donc l'apôtre devient apte à parler cette langue autre. Et donc, je vous propose une petite interruption musicale. Nous sommes sur RCF et nous lisons avec vous le début du chapitre 2 des Actes des Apôtres, c'est-à-dire ce que nous appelons habituellement le récit de Pentecôte. Et dans les premiers versets, nous en étions donc à évoquer ces langues comme des langues de feu qui se posaient sur chacun des apôtres et qui, du coup, leur permet de parler une langue autre. Et nous avions souligné que cette langue autre, eh bien, prenait sa source dans ce don de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint dont ils sont remplis. Donc, ce qui arrive à l'apôtre, c'est d'être rempli de l'Esprit-Saint pour qu'il puisse parler cette langue autre qui va permettre à d'autres d'entendre aussi quelque chose d'autre, peut-être. Alors, je pense qu'on va pouvoir reprendre à partir du verset 5. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Et donc après, on verra tout à l'heure qu'il y a toute une énumération de différentes nations, d'où viennent les Juifs et les prosélytes. Mais donc ici, on est en quelque sorte, on n'est plus dans l'espace de la maison. Or à Jérusalem, bon, venu de toutes les nations qui sont sous le ciel, on a l'impression qu'on est dans un vaste espace public.
Oui, ce qui est caractéristique, c'est que c'est que des Juifs. Il n'y a pas des non-Juifs. Et au cœur même de Jérusalem, toute la terre est représentée à travers eux. Toutes les nations sont représentées à travers eux.
Ce qui est normal parce que c'est une fête de pèlerinage. Donc ça se comprend très bien, enfin, d'une certaine manière.
Oui, mais en même temps, toutes les nations, Hein, on nous dit toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce qu'il y avait des juifs dans toutes les nations? C'est pas sûr, mais on sent que le texte essaye de faire comprendre qu'au cœur de Jérusalem, il y a l'universalité de toutes les cultures, potentiellement en tout cas, et rendue visible ici sous la forme de personnes juives qui sont en résidence. Ils habitaient là.
Alors, peut-être
ils habitent,
que...
ils habitent. Ils viennent pas juste un jour d'hôtel. Hein. Ils ont leur place.
Est-ce que vous voulez bien donc qu'on attende un petit peu parce que l'énumération ne vient pas tout de suite. Oui. Donc ici, on nous précise ça. Et avec cette expression quand même, la foule se rassemblait, fut en plein désarroi car chacun les entendait dans sa propre langue. Est-ce qu'on pourrait dire un autre mot que langue là?
Oui, on peut parler de langage ou de culture.
De dialecte, peut-être
dialecte
aussi.
Moi, je suis très très sensible. Je suis très sensible à ce propos, dans la mesure où chacun entend. Hein, dans ce qu'il est, dans ce qui fait son être le plus profond, comme si cette parole qui est dite par ceux qui sont remplis d'esprit, hein, vienne toucher au plus profond de l'être de chacun quelque chose qui est déjà inscrit au très fond de chacun. Hein. Et là, c'est intéressant que toute l'énumération qui vient après.
Intéressant, le texte nous dit aussi que la foule se rassembla, et si on traduit de près, et on dira, et elle fut confondue, c'est-à-dire fondue ensemble, comme si ça faisait plus qu'un seul bloc, et en même temps on nous dit, chacun les entendait parler sa propre langue, à la fois l'unité et à la fois la diversité.
Oui, alors donc on pouvait dire que sous l'action de l'esprit, les apôtres se mettaient à parler d'autres langues ou une langue autre, comme on dit. Et là, on est du côté de la réception.
Oui.
Et comme le disait tout à l'heure Claude, on pourrait presque se dire aussi qu'eux, ils ont entendu le bruit, ils sont presque dans les échos, les résonances de ce bruit. Et quelque part, il y a l'esprit en eux aussi qui leur permet d'entendre cette langue qui parle.
La parole inscrite au tréfonds de chacun, je trouve ça très, très, très fort. Et que ça soit dit comme ça à la Pentecôte, c'est...
Oui, c'est cette expérience extraordinaire qu'ils se mettent à parler toujours probablement en araméen, peu importe dans,
c'est pas
dans
le problème,
quel code,
quoi, hein.
Mais de telle façon que s'entendent quelque chose qui est
un
propre à chacun et venant de lieux différents, parce que tous ces juifs, ils sont juifs, mais c'est pas le fait d'être juif probablement, c'est le fait d'entendre cet écho quelque part de l'Esprit Saint qui fait qu'ils se retrouvent tous ensemble.
Alors je vais poser une question là, peut-être. Est-ce que cette langue-là, c'est un parler humain?
Alors il est profondément humain, mais souvent on l'oublie. C'est une langue, c'est un mode de parler inspiré. C'est-à-dire que on ne cherche pas à vouloir absolument dire quelque chose, mais dire en vérité. On va employer ce mot-là, parce que l'esprit, c'est aussi l'esprit de vérité, etc. C'est une manière de parler qui va rejoindre la vérité de l'autre.
Et qui fait écho profondément dans l'autre.
Ça. Donc un parler profondément humain, bien plus humain qu'on ne peut l'imaginer peut-être, et qui va parler à partir de cet autre de chacun, mais qui est de ce qu'on avait appelé dans une autre émission, ce qui est reçu peut-être d'un autre aussi. Peut-être.
Alors on en a l'expérience, il nous arrive par exemple d'essayer de communiquer quelque chose à quelqu'un, mais on n'a pas les mots pour le dire. Mais ça fait rien, on va dire des choses qui ressemblent, etc. Et puis on va dire, mais tu vois bien ce dont je veux dire, tu vois bien. Enfin, il n'y a pas forcément des mots exactement, mais tu vois bien qu'en tout cas en moi ça me touche, et peut-être que toi aussi tu sens que en toi c'est bien de ça dont il s'agit. Alors ça on en fait l'expérience, dans la poésie. Par exemple, la poésie ne cherche pas à décrire le monde tel qu'il est, il cherche à faire entendre des choses qui ne peuvent pas être dites dans les mots humains.
Quelque chose d'une résonance au plus profond.
Oui.
Alors, en fait, dans la partie qui suit, donc, on va nous présenter les réactions là, de tous ceux qui sont là. Tout à l'heure, on a parlé un peu d'universalité, mais ça va poser la question, je vais relire l'énumération. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'universalité si c'est limité au monde juif? Donc, je lis les versets à partir du verset 7. Déconcerté, émerveillé, il disait, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entendons dans sa langue maternelle? Partes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Alors ça fait une sacrée énumération, on a l'impression que c'est toutes les nations de la planète, mais en fait, Michel, c'est pas si simple que ça quand même dans l'énumération.
Pas tout à fait. L'énumération, d'abord, elle parle de trois peuplades, Parthe, Mède et Lamite au départ, et après on parle des habitants. Donc on met déjà une différence. Ensuite, on va nous parler des résidents romains, qui est encore autre chose. Et là, on nous dit qu'ils sont tous tant juifs que prosélytes. Là encore, des différences. Et après, on passe aux Crétois et aux Arabes. On a l'impression à la fois qu'on part de l'Est pour aller vers l'Ouest, du Nord vers le Sud, et en même temps, il y a du mélange.
Oui, et bien en même temps, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en fait, ça semble s'ordonner quand même autour d'une liste de 12 nations auxquelles on adjoint Rome, et puis après, il y a les Crétois et les Arabes qui rentrent pas dans cette logique.
Tout d'un coup, on les découvre, eux, ils sont pas juifs, a priori, parce qu'ils sont pas mis parmi ceux dont on dit qu'ils sont tous juifs ou prosélytes. Prosélytes, ce sont des juifs assimilés. Hein. Oui. Donc, voilà, des nouveaux qui apparaissent. Hein. Mais peut-être que c'est l'effet aussi de la Pentecôte, c'est que par rapport à ce qui est connu, on retrouve 12 plus Rome, qui est un petit peu hors circuit. Mais il y a encore d'autres qui sont bénéficiaires de cette chose extraordinaire.
Il y a du neuf là aussi.
Alors là aussi, on pourra peut-être creuser ça une autre fois, mais en tout cas, il y en a qui ne sont peut-être pas dans cette résonance au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils disent, ils sont pleins de vin doux, il y en a qui sont déconcertés. Et donc, on pourra s'interroger.
Il y en a qui s'interrogent aussi.
On pourra s'interroger, nous aussi, sur qu'est-ce que c'est que cette langue maternelle, profondément humaine, qui permet d'entendre les merveilles de Dieu. Mais nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission sur RCF. Merci d'avoir été des nôtres.